Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pierre-Éliott Trudeau aurait demandé à Paul Desmarais, dans les années 70, de nuire à l'économie du Québec, juste après la victoire du Parti québécois en 1976, pour être plus précis. Et c'est ce que Radio-Canada a appris dans des vieux papiers diplomatiques déclassifiés. On en parle avec un ancien journaliste qui était ici, à la Tribune de la presse à Québec à l'époque. C'est Graham Fraser. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous étiez correspondant du Maclean's à l'époque. Et évidemment, vous avez été par après commissaire aux langues officielles, entre autres.
Oui,
Donc, Maclean's, à l'époque, vous arrivez, vous dites, à Montréal. Et est-ce que déjà on pouvait sentir l'hostilité de Pierre-Éliott Trudeau? Est-ce qu'il avait fait des déclarations publiques pour dire qu'il fallait que, finalement, la classe économique nuise au nouveau gouvernement élu?
Non. Puis, effectivement, ces déclarations publiques étaient plutôt modérées dans le sens que il renforçait un peu, il disait « Moi, j'ai ma position sur le fédéralisme. Si des gens, si la population appuie d'autres versions de fédéralisme, c'est bien, on devrait avoir ce débat-là. il a fait... des entrevues fin d'année à CTV puis à TVA puis une déclaration télévisée à la population où c'était plutôt la modération. L'impression que j'ai eue...
Ouais, comment on peut expliquer justement ces câbles diplomatiques où là, Monsieur Trudeau semble dire il faudrait que le taux de chômage augmente au Québec, que finalement ça fasse mal là, l'élection du Parti québécois?
L'impression que j'avais, et puis en lisant ça, c'était un peu l'impression que j'ai aussi. Dans cette note, on dit qu'il y a trois factions dans le gouvernement. Un qui dit on devrait être plutôt d'abord un appel à l'unité nationale, puis une présomption que le Parti québécois mènerait à sa propre défaite. Mm-hmm. Puis, il y avait d'autres conseillers qui voulaient une position plus agressive. Puis, il y avait d'autres qui voudraient que on propose un fédéralisme décentralisé. Puis, puis vis-à-vis une approche agressive, la note dit qu'il y avait des membres du gouvernement qui pensaient que on devrait, puis on dit dans la note, encourager ou au moins ne pas décourager des investisseurs de se retirer du Québec. Puis, de toute évidence, on explorait toutes sortes d'idées. Puis, à cette époque-là, on avait créé un groupe de conseillers seniors qui se rencontraient chaque semaine, qui regardaient les sondages qui sont arrivés à la conclusion que malgré la popularité du gouvernement, la position de base vis-à-vis un référendum restait plus ou moins le même. Il n'y avait pas d'indication dans les sondages que le gouvernement avait fait faire.
Mais, est-ce qu'il faut comprendre que Pierre-Éliott Trudeau, au fond, l'homme du « Just Watch Me », l'homme plutôt viril, il avait toujours un discours très viril en public, on peut imaginer qu'il était dans le camp des agressifs, qui aurait voulu remettre le Québec à sa place en usant son économie, en faisant en sorte que des Paul Desmarais et des grands capitaines d'industrie là quittent le Québec ou montrent qu'ils sont qui sont pas d'accord avec le gouvernement élu.
Ben c'est effectivement la phrase Just Watch Me m'est venue à l'esprit aussi en pensant à ça. Mais il était aussi un chef de gouvernement qui gérait un cabinet où il y avait toutes sortes d'opinions différentes.
Ouais.
Donc, il était pas insensible à ces différences. Et il était tout à fait capable de lancer une idée provocatrice, laisser voir l'impact de cette provocation. Donc, dans la note, M. Enders est...
Oui, qui est le fameux diplomate avec qui discutait M. Trudeau.
Oui, ben c'est ça.
C'est ça. Vous dites qu'ils s'entendaient bien, d'ailleurs, dans le reportage d'Elizabeth Thompson. Vous dites qu'ils s'entendaient bien, Trudeau et Enders.
Oui, effectivement. Puis il y a quasiment... transcription d'une conversation qu'ils ont eue à deux au mois de mars. C'est un ton à la légère, puis aussi très philosophique, puis conceptuel. On lance des idées vis-à-vis le commerce entre le Canada et les États-Unis, question fiscale. Si je fais ça, c'est quoi la réaction, c'est quoi l'effet? Trudeau est assez content de d'avoir ce genre. Il dit, j'aimerais continuer cette conversation. C'est pourquoi je suis venu en politique, de développer des idées.
Oui.
Donc,
vous laissez entendre, vous, que même le commentaire sur nuire à l'économie du Québec, là, vous parlez de mars 76, mais là, nuire à l'économie du Québec, c'est évidemment après novembre 76, mais que c'était un peu de la même eau, c'est-à-dire une espèce de fantaisie ou d'hypothèse?
Ben, c'était un ballon d'essai, là. Okay. Il y avait toutes sortes d'idées qu'on lançait à ce moment-là. Je pense que faut dire que c'était seulement un mois après les élections. Il y avait un désarroi au Canada anglais. Il y avait des idées de toutes sortes qui circulaient. Et je pense aussi que, dans la note, M. Enders dit que c'est du oui-dire. C'est ce que Enders rapporte, ce que Paul Desmarais lui aurait dit de la conversation avec la suggestion de Trudeau. Donc, mais je pense que la position d'Ottawa ou de Trudeau est devenu plus clair après le discours de M. Lévesque à New York, à l'Economic Club, où il y avait une réaction très négative des Américains sa comparaison avec la Révolution américaine, par exemple.
Oui.
C'est
ça, parce que René Lévesque avait fait une comparaison entre la Révolution américaine, l'indépendance américaine et l'indépendance du Québec. Et ça, ça avait fâché au Economic Club. Ça. Puis, je pense que Jean-François Lisée le raconte bien dans L'œil de l'aigle.
C'est ça, c'est ça. Il y avait des chefs d'entreprise américains qui pensaient que la comparaison réelle, c'était plutôt la guerre civile. Donc, ça tombait mal. Puis, c'était un des rares discours que l'évêque n'avait pas rédigé lui-même. Puis, je pense qu'après ça, il a dit, « Ben, je laisse pas ce genre d'exercice aux autres.
» Pour revenir à Trudeau, pensez-vous que c'est un acte de traîtrise? Juste d'évoquer comme ça, de miner une économie pour nuire à un gouvernement qui fait pas son affaire?
C'est dans une période où il lançait toutes sortes d'idées. C'est Enders qui rapporte, Enders qui est mort, qui rapporte ce que Desmarais rapportait. Desmarais qui est mort, qui rapportait ce que Trudeau qui est mort disait. Donc, on a, puis c'est assez...
Sauf qu'en 1978, par exemple, le siège social de la Sun Life, par exemple, quitte le Québec et est déménagé à Toronto. On met ça sur le dos même de la loi 101. Est-ce que c'est pas ça une sorte de geste que le gouvernement Trudeau, en sous-main, aurait pu encourager?
C'est possible. C'est, puis il faut dire que le coup de la brinque, c'était 7 ans avant la loi 101. Là. C'était plutôt la montée du Parti québécois qui
ça, c'est pour faire peur aux Québécois juste avant les élections de 70.
C'est ça, c'est ça. Et
donc on avait comme mimé une sorte de capitaux, d'exode des capitaux.
Oui, oui. Puis c'était une performance. J'ai jamais su exactement qui était derrière ça. Si c'était.
Et Jean-Claude Rivet m'a déjà dit, l'ancien conseiller de Robert Bourassa, que c'était des gens du Parti libéral du Québec. Il me l'a dit à ce micro. Oui.
Ah bon. Mais j'avais pas eu d'indication que c'était Trudeau derrière ça. Là. C'est il était capable de brutalité, c'est sûr.
Oui.
Tout le monde se rappelle de son rôle pendant la crise d'octobre.
Oui.
Et une indication, et là encore, il n'y a pas de lien que je sache avec le gouvernement fédéral, mais la décision de Sun Life, un an après, presque mois pour mois, un an après cette conversation que Trudeau aurait eue avec Paul Desmarais, il y a eu la décision de Sun Life de déménager à Toronto.
Mm-hmm.
Puis c'était un peu la preuve que c'était contre-productif. Je pense que la colère qui a été provoquée par ce geste a aidé plutôt que nuit au Parti québécois.
Ah oui. Et pendant que je vous ai au bout du fil, M. Fraser, vous qui avez été commissaire aux langues officielles, et étant donné que dans les pages du Devoir, en 2015, on s'était aussi un peu escrimé sur la loi sur les langues officielles, moi, je trouvais que cette loi-là était d'une symétrie aveuglante. Vous m'aviez répondu à l'époque, symétrie, c'est-à-dire qu'elle met les minorités francophones dans le reste du Canada et anglophones au Québec sur une sorte de même pied un peu artificiel. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une évolution dans le discours de Mme Joly, dans le discours du gouvernement Trudeau, vers justement autre chose qu'une symétrie un peu trop dure, un peu trop qui peut nuire au fond aux Français au Canada?
Disons que c'est très clair dans la position du gouvernement dans le discours du trône, puis également dans le livre blanc, que on veut se préoccuper avec l'état réel du français au Canada, à l'extérieur du Québec et au Québec.
Mm-hmm.
Donc, qui est un changement de ton. Et également c'est un effort de faire face à un vide juridique parce qu'il y a des compagnies à charte fédérale qui ne sont pas assujetties ni à la loi sur les langues officielles ni à la charte de la langue française. Donc
vous voyez ça d'un bon œil?
Je regarde ça avec grand intérêt. Je pense pas que moi je ne suis plus comme commissaire. Je pense que c'est plutôt pour Raymond Théberge de commenter. Mais je trouve ça une approche intéressante. Mais je souligne aussi que quand on parle du déclin du français, il faut être assez précis.
Oui.
parce que si on compare la situation du français qui existe maintenant avec la situation qui existait il y a 50 ans, quand on a eu la commission royale sur le linguisme et l'éducationnisme, il n'y a pas de comparaison. Il y a une industrie d'édition, une industrie de cinéma, une industrie de musique qui existait à peine il y a 50 ans. Donc, ouais. Puis, si on regarde la situation au Québec il y a 60 ou 70 ans, il y avait une présomption, même chez des profs d'université anglophones au Québec, que le français était dévoué, était voué à la disparition.
Ouais, je comprends.
Moi, je suis assez sceptique vis-à-vis la disparition du français, le déclin du français. Je pense que le français au Québec est fort.
Mm-hmm. Espérons que vous ayez raison. Merci beaucoup, Graham Fraser.
Ben, je vous en prie.
Merci pour cette conversation.